L'émission Lilith, Martin et les autres, numéro 2003-2015 sur 102.2 FM à destination de Tournon en Ardèche va partir. Prenez garde au contenu de l'émission. C'est dangereusement féministe et impertinent. Attention au départ. Bienvenue dans les ondes féministes de Lilith, Martine et les autres. Votre hôtesse de bord, Hélène, nous accompagnera durant une heure pour nous parler du métier d'aide-soignante. De ses expériences, des conditions de travail, du fait que 90% sont des femmes. Vous n'avez besoin ni de ticket, ni autre titre de transport pour écouter notre émission. Elle est libre de diffusion. Restez à l'écoute sur 102.2 FM.
Je voulais pas faire ça comme métier. Je voulais être secrétaire. Et il fallait taper très vite en dactylo et j'étais pas assez rapide. Donc on me proposait de faire une formation de comptabilité. Donc j'ai pas voulu. Alors j'ai fait la formation d'auxiliaire puéricultrice. Et donc j'ai commencé dans cette branche, quoi. Et après, je ne l'ai pas quitté. C'est du maternage, quoi. Alors c'est évident pour une femme de soigner, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une branche où il y a du travail encore. Alors, même si il y a de plus en plus de CDD, des emplois précaires, à temps partiel. Même si maintenant il y a des infirmières au chômage, je pense qu'il y a des aides-soignantes aussi au chômage. Mais dans les maisons de retraite, on trouve encore du travail. Donc c'est vrai qu'on est un peu coincé là. Parce qu'on n'a pas le choix.
Sur Lilith, Martine et les autres 102.2 FM, la plus féministe des émissions, il nous a semblé important de voir du côté des aides-soignantes, dont la profession est composée de 90% de femmes, ce qui se retrouve au bas de la hiérarchie des métiers du soin avec les ASH, agents de services hospitaliers, ce qui se passait. En 90, elles étaient 300 000 en France. Ce sont elles qui sont quotidiennement aux côtés des malades, des vieux, des folles, des cancéreux, des cancéreuses, des personnes porteurs d'handicap, des clouées au lit, des vieilles. Ce n'est plus le même modèle où les femmes étaient dans leur domicile et qui étaient vouées à s'occuper des enfants et des vieux. Elles se retrouvent dans les hôpitaux, les mouroirs, les foyers pour personnes handicapées, les EHPAD, les cantous, les services à domicile, à encore s'occuper des autres pour 10 heures par jour, un salaire pas franchement excellent. Pour Anne-Marie Aborio, qui a écrit une thèse intitulant « Quand le sale boulot fait le métier », pour elle, en résumé de sa thèse, elle dit « Dans les années 50, l'introduction de la catégorie d'aide-soignante dans la hiérarchie du personnel hospitalier s'est justifiée d'abord par une politique de reclassement provisoire d'une partie du personnel dans un contexte de pénurie. Peu à peu, une place à part entière est cependant assignée à l'aide-soignante dans la division du travail, dans l'institution, ne serait-ce que par une définition formelle donnée au poste proposé, qui la range du côté des professionnels du soin dont elle partage les mêmes espaces, le même matériau, mais sans partager pour autant le prestige du statut. L'observation du travail des aides-soignantes met en évidence dans l'ensemble composite de leurs tâches l'importance du travail délaissé comme indigne. du sale boulot souvent dans un sens absolu. Les aides-soignantes sont donc dans une position clairement subordonnée dans la hiérarchie et ce, dans un univers professionnalisé, au contact permanent de personnes de statut supérieur, dont la supériorité se fonde sur leur présence qui permet de se défaire du sale boulot. Les aides-soignantes, profanes parmi les professionnels, n'en sont pas pour autant vouées à une position univoque, déterminée par l'institution de stricte subordination. Leurs pratiques de travail différenciées peuvent être lues comme produit d'un jeu avec le sale boulot, qu'elles l'acceptent en essayant d'en tirer une spécificité valorisante ou qu'elles cherchent, elles aussi, à s'en défaire. Partant de cette phrase et de celle d'Hélène qui dit que les femmes sont coincées dans ce métier, on veut aussi discuter avec elle pour revoir ses conditions de travail, les difficultés, mais aussi les forces, les réseaux de solidarité qu'elle a créés ou qui se sont créés, ses compétences, ses savoirs, ses qualités, ses réflexions sur la bientraitance et la maltraitance, et les luttes. Est-ce qu'au final, Hélène et les autres aides-soignantes peuvent tirer de la force et de la fierté de leur pratique, de leur métier ? Mais comme Hélène nous l'a dit hors micro, il y a une limite à tirer de la fierté d'un métier. Car un travail, ça reste toujours un travail.
La vie s'écoule, la vie s'en fout. Les jours défilent au pas de l'ennui. Partie des rouges, partie des gris. Nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris. Nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence. Tu vas mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence. Et va mûrir dans la violence. Brûler les repères de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui somme la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous diriger, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos...
Le métier d'aide-soignante, c'est un métier qui consiste à faire des soins de base, comme les soins d'hygiène, les toilettes, les repas avec les régimes, les aider à marcher, tout ça avec les aides techniques, relever des constantes.
Ouais.
Comme prise de température, de tension artérielle, les diurèses, tout ça. Il y a l'observation de la personne, les modifications de son état de santé, les transmissions en équipe. C'est une formation qui est faite en IFAS, c'est l'Institut de formation des aides-soignantes, qui se fait dans des structures hospitalières et qui se fait en un an. Et puis il y a la VAE, la validation des acquis d'expérience. Les aides-soignantes travaillent dans les services hospitaliers, tous les services, comme chirurgico, médecine, obstétrique, maternité, psychiatrie, dans les structures privées comme clinique privée, EHPAD, et puis les SIAD, c'est les services de soins infirmiers à domicile. Voilà, puis elles peuvent aussi exercer en auto-entrepreneuriat à domicile. Alors, les horaires, dans les services publics, les hôpitaux, souvent c'est une équipe du matin qui fait 6h-14h et une équipe du soir qui travaille de 14h à 22h. Et puis une équipe de nuit qui travaille de 22h à 6h. Dans les maisons de retraite privées, il y a plus d'équipes coupées, enfin d'équipes qui travaillent en deux fois. C'est-à-dire qu'elles travaillent le matin de 7h à midi, mettons, et puis qu'elles reviennent le soir de 4h à 21h, par exemple. Enfin, il y a plusieurs horaires, plusieurs. Enfin, ça dépend des établissements aussi. Et puis, de nuit, on fait souvent. Enfin, moi, je travaille de 21h à 7h. Une aide-soignante débutante, je pense qu'elle gagne à peu près 1 400 € net, en comprenant les primes de dimanche. Et moi, en fin de carrière, je gagne 1 780 € net en prime de nuit comprise et prime de dimanche comprise en travaillant un week-end sur deux. Dans le métier, enfin, dans le métier du soin, quoi, enfin, il n'y a que des femmes et il y a deux hommes, un homme qui est chef cuisinier, un homme qui fait partie du personnel d'entretien, enfin qui est homme d'entretien, et tout le reste c'est des femmes. Et il n'y a que dans les hautes sphères, alors il y a plus d'hommes, comme le gérant, le directeur régional, c'est des hommes. Et c'est bien représentatif de la position des femmes dans ce métier parce que ça représente 90% de femmes dans le métier du soin, quoi. Enfin, dans l'imaginaire collectif, on pense que les femmes sont faites pour soigner, pour materner. Et bon, ce qui n'est pas si évident que ça, quoi. Enfin, et je pense que les choses changent maintenant parce que les jeunes diplômées, maintenant, je trouve qu'elles sont plus distantes. Ouais, je pense que c'est des filles qui sont des filles d'ouvriers, qui viennent de milieux ruraux, tout ça, quoi. Moi-même, je suis fille d'ouvrier. Voilà. Thank you. Alors, mes conditions de travail actuellement, elles sont très difficiles. Et oui, ça a beaucoup changé depuis que j'ai débuté. Parce que j'ai débuté ma carrière en 1975 à l'hôpital de Brousse, où je travaillais de nuit dans un service de réanimation et d'urgence médicale. Et bon, c'était un service qui était très difficile, où il fallait passer pratiquement la nuit toujours debout. Mais c'était un travail très intéressant, très technique, avec une équipe très pointue. On travaillait beaucoup avec les internes, des infirmières puéricultrices. Il y avait aussi des internes en pharmacie. Donc c'était un travail très intéressant, malgré qu'il soit difficile, parce que c'était en pédiatrie et c'était souvent des enfants très malades, quoi. Et j'ai fait aussi une expérience qui m'a bien intéressée. C'était au CIAD de Saint-Chabron, c'est un service de soins infirmiers à domicile. Saint-Chamond, c'est une ville industrielle et avec un terreau de militantisme ouvrier. Il y avait des grosses usines comme Creuse-Loire, les forges stéphanoises et puis d'autres industries textiles où il y avait beaucoup de militantisme. Et c'était une association loi 1901. Et on avait une union syndicale très forte avec un comité d'entreprise. Et il y avait beaucoup de solidarité entre personnel. Il n'y avait pas de hiérarchie. Enfin, c'était... J'ai travaillé 9 ans et c'était pendant les années 80. Et où il y a eu les lois Auroux sur le travail, le droit d'expression dans l'entreprise, les lois sur les conditions de travail, le CHCT, les lois d'expression, voilà, le droit d'expression dans l'entreprise, et puis le passage aux 39 heures, parce qu'avant je travaillais 40 heures. Et puis après, avec la loi Aubry, le passage à 35 heures. Et puis, je pense qu'il y avait plus d'heures de délégation pour les délégués du personnel que maintenant. Puis bon, c'était quand même une entreprise de 100 salariés, alors on était bien 5 délégués du personnel, plus les suppléantes et 5 délégués du CE, je crois.
Et vous étiez active, tu vas raconter un peu sur les luttes que vous meniez dans ton travail.
Oui, il n'y avait pas de frontière entre notre travail du soin avec notre travail de militantisme, quoi. Il y avait, on avait contacté la coordination culturelle, c'est-à-dire que c'était une coordination avec toutes les entreprises du coin, et où on faisait avait des actions sociales, quoi, et culturelles. On allait, on prenait des tickets pour le cinéma, dans les MJC, pour que les gens puissent avoir des réductions pour aller au cinéma, pour aller à la piscine, pour faire plein de choses comme ça, quoi. Enfin, et il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués là-dedans, quoi. peut y avoir des négociations dans l'entreprise une fois par an, quoi. Mais je pense que ça portait surtout hein, sur nos conditions de travail, mais je ne me rappelle plus exactement, quoi. Enfin, sur nos conditions de travail, sur les heures de délégation, sur le statut des différentes professions, quoi, des différents métiers. Parce qu'on avait milité pour les aides à domicile, pour qu'elles aient une convention collective. Et on avait fait des manifestations et on était arrivé à ce qu'elles aient leur convention collective, quoi. Il y avait aussi des personnes qui faisaient partie de ATD Clermont et on avait fait une commission sur le logement. Comme on allait à domicile, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui étaient mal logés dans des HLM qui étaient très vétustes, quoi. Et on avait fait une commission et à cette époque-là, le maire qui était Badet, qui était socialiste, il avait permis aux locataires de HLM de devenir propriétaires et d'aménager leur logement. Enfin, il y avait plein d'actions comme ça, quoi. Mais ça s'est un peu délité parce que les personnes les plus actives sont parties, quoi.
Y a tout à perdre, rien à gagner. C'est le règne des résignés. Et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. C'est la débine et la combine, chacun pour soi, telle est la loi. Et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. Où sont l'amour et l'amitié, morte et la solidarité. Et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pas de budget pour les écoles, les hôpitaux, car nos impôts vont financer les escaliers vers la chambre à gaz des banquiers. C'est la guerre des voisins de palier, tout est prétexte à se flinguer. Qu'importe puisqu'on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pour se venger de leur lâcheté, ils attaquent les étrangers. Mais c'est ensemble qu'ils vont crever dans la chambre à gaz des banquiers. L'argent fout le camp si vous pensez que pour autant la vie s'en va. Vous gagnerez de quoi crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pourtant le soleil de la vie continue à nous éclairer. C'est pas le moment de crever dans la chambre à gaz des banquiers. La vraie vie, c'est la gratuité. Je veux plus payer pour engraisser ceux qui pensent nous envoyer dans la chambre à gaz des banquiers. L'argent qui tue va les tuer. Il n'y aura qu'à les pousser pour qu'ils achèvent de crever dans leur chambre à gaz de banquier.
Et bien, soigner, C'est prendre en compte l'autre, quoi, l'observer avec la communication, une communication verbale et non verbale. C'est le respecter. Et voilà, c'est prendre soin, quoi. Mais bon, c'est pas évident. Parce que cette qualité de vie qu'on voudrait donner aux autres, eh ben, nous en tant que soignants, on l'a pas forcément. On ne nous donne pas les moyens. Donc on est écartelé entre notre éthique du soin et notre cette pression de la hiérarchie. Et cette hiérarchie avec des DRH, des directeurs régionaux, des conseillers de ceci ou de cela, tous ces boulots qui ne servent à rien et qui ne sont pas productifs, alors que c'est nous qui sommes productives, qui à la base prenons les décisions, mais qui n'avons aucun. Ils ne pouvons pas prendre les décisions à plus grande échelle. Et ben, la bien-traitance, justement, c'est cette qualité de vie là, qu'on doit fournir aux patients, aux résidents. Ce respect, une attention, enfin une écoute. Mais qui est très difficile et qui est très difficile et on devient maltraitant si justement nous on n'est pas dans une qualité des soins, enfin si on nous offre pas les moyens de le faire, quoi. Alors il y a des formations tout le temps sur la bien-traitance, mais c'est cynique, quoi, parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut être bien traitant, et après, on ne nous donne pas les moyens, quoi. Parce que quand je travaille 10 heures de nuit, où j'arrête pas une minute, je suis une machine à la fin. Je suis pas. Si je suis maltraitante, c'est pas étonnant, quoi. Parce que je travaille dans l'automatisme. Et voilà, quoi. Après, il n'y a plus de relations. Puis bon, comme je suis obligée de respecter des temps, quoi, je suis obligée de m'organiser. S'il y a des personnes qui me demandent plus, je ne peux pas leur donner, quoi. Si je travaille à toute allure, que j'ai l'impression de travailler comme si je travaillais sur une chaîne. Là, je travaille avec automatisme. D'un côté, c'est bien parce que, comme j'ai une certaine expérience et une certaine pratique, et ben, c'est mieux pour moi parce que je suis plus efficace et c'est mieux pour le résident parce que je le prends mieux en charge, quoi. Il sent qu'il est bien. Il est bien pris en charge, quoi. Enfin, c'est d'une pratique aisée, quoi. Et c'est aussi bien que d'hésiter, et de réfléchir et de penser. Mais après, si après coup, je pense, je réfléchis sur ma pratique, je me dis que ça pourrait être mieux, quoi. Enfin, c'est pas pour autant que ça me culpabilise parce que ça ne vient pas de moi, quoi, parce que moi j'en ai parlé, j'en ai fait part, puis voilà, les choses n'ont pas changé, donc j'essaye de faire au mieux, quoi, de faire au mieux, mais plus tu fais au mieux et plus c'est fatigant parce que tu essayes de faire vite et bien, quoi, et donc c'est exténuant, quoi. Même si
Après, tu dis non, là, j'arrête, je peux pas tout donner, quoi. C'est stop. C'est impossible, quoi.
Le site Gutermann, enfin je suis bien arrivée. Je cherchais une matière en or, enfin j'ai fini par trouver. En plus elle n'est vraiment pas loin, je suis même venue à pied. On dit qu'accoucher c'est pas rien, donc faut être bien accompagnée. Pas vrai? Où sont les lilas? Dites-moi où sont les lilas? Sans même devoir leur parler, ils savent ce qui ne va pas. Ah sacré lila, dis-moi où es-tu cachée? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes pas. Hey!
Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, où t'es, où Lila, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où Lila, où t'es?
Non mais alors quoi? J'hallucine où ils ont disparu. Hier à peine ils étaient tous là. Et aujourd'hui que sont-ils devenus? Le plan était bouclé, le terrain réservé, une équipe surmotivée. Dites-moi qui a bloqué ces gens formidables? Hein, dites-moi qui? Tiens, tout le monde sait faire naître des bébés, mais eux le font avec humanité. Monsieur Evin en aurait peut-être douté, c'est ça. Il serait peut-être temps que j'accouche, moi. Mais je veux pas m'en aller. Ça fait bien plus de 9 mois que je veux accoucher là. Hey!
Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, où t'es, où Lila, où t'es? Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, Lila, où t'es? Où t'es, Lila, où t'es?
Vous êtes toujours dans le train, Lilith Martin et les autres, numéro 102.2 FM, la plus rebelle des radios, en voyage avec Hélène, aide-soignante en fin de carrière. Nous venons de faire une escale en Seine-Saint-Denis avec le personnel de la maternité d'Ilela, qui reprenait à son compte une chanson de Stromae pour faire connaître la lutte qu'elle mène contre la fermeture de cet établissement. Elle demande à l'ARS, Agence Régionale de la Santé, de maintenir ce lieu. Elle crie: tenez vos promesses, nous sommes la richesse des femmes en détresse. Accoucher, avorter, c'est la liberté des lilas. Voilà, c'était un petit clin d'œil à ces sages-femmes, aides-soignantes et aides à domicile qui sont en lutte un peu partout, en France et ailleurs. On continue avec Hélène qui revient sur ses dernières années de travail en tant qu'aide-soignante.
Après, j'ai fait des remplacements, j'ai travaillé dans des... J'ai fait de l'intérim, j'ai fait des remplacements dans des EHPAD, dans des foyers d'accueil médicalisés, dans des cliniques privées, mais c'était très dur parce que quand on connaît pas quand on connaît pas le milieu du travail, c'est dur de s'adapter, d'arriver comme ça sans rien connaître, quoi. Sans connaître les résidents ou les patients, sans... Enfin, il faut avoir une grande capacité d'adaptation, quoi. Ensuite, j'ai travaillé au CIAT de Saint-Chamond. De Saint-Chamond, de Saint-Agrève. Ouais. Mais là, c'était un emploi... en CDD, à temps partiel. Et c'était toujours des emplois à temps partiel et en CDD, donc je suis pas restée, quoi, parce que je gagnais pas assez. Et après j'ai trouvé un travail à l'EHPAD, dans un EHPAD à la Louvée, qui est dans un village du Haut-Vivarais, quoi. Un petit village. C'était un ancien hôtel qui avait été aménagé en EHPAD. Donc avec des conditions de travail très difficiles parce que les locaux étaient très vétustes. Par exemple, il y avait un parquet en bois. Donc pour faire rouler les fauteuils roulants sur les parquets en bois, c'était pas évident. Voilà, et après c'était racheté par le groupe Les Opalines. Donc je suis restée 3 ans à la louer. Et après, les Opalines ont fait construire un EHPAD tout neuf à Tournon. Et on a déménagé. Et je travaille depuis 3 ans aux Opalines de Tournon. Ils ont beaucoup de maisons de retraite dans tout l'est de la France, du nord au sud. Des groupes, les Opalines, qui sont associés avec Corian, qui est un groupe qui est coté en bourse. Et d'autres qui sont associés avec EOVI, enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, quoi. La nuit, je travaille seule. Enfin, je suis seule en EHPAD parce que il y a un EHPAD de 46 personnes avec des résidents soi-disant autonomes, mais qui, ils sont âgés, ils deviennent de plus en plus dépendants. Et au deuxième étage, c'est des personnes très dépendantes qui sont grabataires. Donc, ça inclut des. Ils ont des positions vicieuses, qu'ils sont souvent déments, alors qu'ils ont des démences séniles. Donc ils sont anxieux, ils sont très raides ou très lourds, quoi. Et puis il y a un cantou où il y a 14 personnes. Et c'est ma collègue qui travaille au cantou. Donc on est séparés, on ne se voit pratiquement pas. Ponctuellement, elle m'aide au change de certains résidents qui sont lourds, mais bon, il ne faut pas dépasser un certain quota, quoi, parce que... Et puis au cantou, ça nécessite de surveiller les résidents tout le temps, quoi. Parce qu'il y a des résidents qui déambulent, qui vont dans les chambres des autres résidents. Voilà. Puis il y a un foyer d'hébergement où il y a aussi 15 personnes et qui sont autonomes, mais il arrive qu'ils m'appellent parce que ils sont malades ou. Il y a un service de téléalarme qui dépend de Saint-Étienne. Et il m'appelle pour aller voir tel résident qui est tombé ou qui ne va pas bien. Donc voilà, il faut quand même que je réponde aussi à ces cas-là. Donc c'est un travail très... très physique, il faut avoir une bonne condition physique. Il y a des patients qui sont anxieux, qui ont des maladies d'Alzheimer, parce que leur famille ne veut pas les mettre en canton à cause des autres résidents. Et j'ai vu des cas très très difficiles, quoi. des gens qui déambulaient, qu'il faut surveiller tout le temps, quoi. Alors, comme il y a deux étages et des fois je suis au deuxième étage, je ne peux pas surveiller en même temps les personnes du premier étage et ceux du deuxième étage, quoi. Il faut que je réponde aux sonnettes. Quand c'est des personnes malades, il faut prendre leur constante. Des fois, il faut appeler le SAMU. Il faut faire l'échange. Enfin, je 10 heures sur 10, je m'arrête pas, quoi. Il faut préparer les traitements. Et puis il y a des personnes qui rentrent contre leur gré. C'est souvent à la suite de la mort d'un conjoint. On les place en maison de retraite et on vend leur maison. Ils sont tout à fait en opposition contre l'institution et contre le personnel. Souvent, ils sont anxieux, angoissés. Certains ont des maladies psychiatriques. Ils ont des pics d'angoisse, de dépression. Ils sont très demandeurs, quoi. Certaines personnes voudraient que je reste constamment avec eux, quoi. Au début, on faisait tout à deux. On faisait l'échange à deux. J'allais avec ma collègue au canton aussi. Après, en 2012, par une note de service, ça a été décidé que je fasse l'échange toute seule. J'ai appelé la directrice pour savoir pourquoi, quoi. Elle m'a dit qu'il y avait des quotas. J'ai dit qu'ailleurs, moi, j'avais toujours travaillé... travailler toujours à deux. Bon, c'était mieux pour nous, mieux pour les personnes, parce que certaines personnes sont douloureuses c'est difficile quand il faut changer les draps dans un lit. C'est plus facile de le faire à deux que de faire le tour du lit. D'un côté, tu tiens la personne, de l'autre, tu essayes de faire d'une main tous les soins, quoi. C'est juste pas pratique, quoi. La directrice est infirmière en plus. Alors elle m'a dit que si j'étais pas contente, que j'avais qu'à partir, quoi. Avec l'infirmière coordinatrice, j'en ai parlé. On a décidé qu'il y ait 7 personnes qu'on change à deux. C'était encore revu il n'y avait plus que 3 personnes qu'on devait changer à deux. Ponctuellement d'autres personnes s'il y avait besoin, il y a des notes de service, mes collègues veulent suivre à la lettre ce qu'on dit dans les notes de service, ça remet toujours en cause notre organisation, quoi. Parce que nous, on était bien organisés, on s'était organisés pour travailler à deux. Maintenant, on travaille seul et dans des conditions qui ne sont pas faciles, quoi. Enfin, on a un téléphone et si on a des problèmes, on peut appeler l'autre. Si par exemple il y a des personnes qui tombent, on appelle la collègue pour qu'elle vienne nous aider. Mais bon, c'est c'est pas évident, quoi. Voilà, il y a des quotas, soi-disant, qui sont donnés par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Et avec 46 résidents, on doit changer les résidents à seul. Alors, c'est pas logique du tout, parce que tu prends un service de réa, ils ont peut-être 16 lits, et ils sont au moins 4 personnes, quoi. On me dira que c'est de la réa, que c'est très technique et très pointu. Mais nous aussi, on a des gens qui sont... Ils sont très difficiles, et c'est pas parce que c'est la gériatrie qu'il faut que ça soit des soins qui soient revus à la baisse, quoi. Et qui soient déconsidérés, quoi.
Est-ce que ça fait ça, c'est...
Ouais, la gériatrie, souvent, c'est la punition. Moi, quand je travaillais en chirurgie et qu'il a fallu que j'aille en gériatrie, à l'hôpital de Saint-Agrève, j'ai ressenti ça comme une punition. Et je trouvais que c'était moins intéressant. Et une fois que tu as mis le pied là-dedans, que tu as travaillé en gériatrie, souvent tu travailles toujours là-dedans. Parce que c'est une branche où il y a plus de travail, quoi.
Je veux m'affranchir et lancer à voix haute ce que l'on n'ose pas avouer aujourd'hui, ce que l'homme honteux cache comme une faute, les secrètes ardeurs qui fermentent en lui. Une heure sonnera, peut-être heure nouvelle, chaude des appétits, trop longtemps rebuté. Ce jour-là, ma révolte aurait ceci pour elle de devenir banale en de rouges clartés. La force imposerait bien plus que mon audace. On s'habituerait vite à trouver ça très beau. Le pôle de morale changer de place, et le bien tournera sur un axe nouveau. Alors, quand tout serait hardiesse et franchise, et qu'il n'y aurait plus de principes étroits, et que chacun vivrait à sa mode, à sa guise, à ses propres périls, sans dîme ni sans loi. Lorsqu'enfin libéré d'air et de cilice, on se redresserait, le corps ressuscité, quand on tiendrait le verre et non plus le calice. Cette fois l'on boira le vin de vérité. Du fait d'avoir jaugé règles, lois et manies, rien ne subsisterait des âges révolus. Si ce peut, fleurirait de neuves harmonies, et ce serait l'instant des hommes résolus. Déjà c'est devancer que d'oser ses caprices. J'aime à tout essayer au hasard des moments. Si l'impulsif élan vous paraissent des vices, tant pis, j'aurai l'orgueil de mes emportements.
Eh bien, moi, de mon service de nuit, bien, je vois pas trop de solidarité. En plus, le matin, quand j'ai fini ma nuit, et, bon, on fait les transmissions. Mais j'ai pas trop envie de parler, de m'étendre sur... Enfin, j'ai envie de partir, quoi, de rentrer... rentrer chez moi, d'aller me coucher.
Ah bah ouais.
Donc, puis bon, vu qu'il n'y a pas de syndicat, il y a une déléguée du personnel, mais qui est sans étiquette et qui n'est pas représentative de tout le personnel, eh bien, ça fait que moi, je vois pas de solidarité, quoi. Puis bon, il y a de la jalousie entre différents métiers, comme les ASH par rapport aux aides-soignantes.
Enfin, les ASH, c'est...
Les ASH, c'est les agents des services hospitaliers. Eh bien, elles font plus de ménage,
ouais.
Mais il y en a qui font, qui sont ASH faisant les fonctions d'aides-soignantes.
Okay.
Bon, elles font les mêmes fonctions. Souvent, j'y arrive aussi bien, sans avoir le salaire, quoi.
Il faut faire un peu les trucs d'avoir des étiquettes et des salaires différents, et d'avoir des responsabilités sur le terrain. Et du coup, ça doit créer des tensions, j'imagine.
Ouais, ça crée certainement des tensions. Ouais. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités, quoi, parce que tout est pris, les décisions sont prises à un autre niveau, quoi. Au niveau des directeurs régionaux, au niveau du gérant, quoi. Et nous, on a des notes de service qu'on peut pas remettre en cause, quoi. Des notes de service qui sont souvent aberrantes et qui sont impraticable, quoi. Je suis adhérente à la CFDT. L'union locale sur ton nom m'a contactée pour savoir si on pouvait faire une union syndicale dans notre établissement. Et je ne sais pas si on va y arriver. Le syndicat CFDT, les aides-soignantes, ont fait une action au niveau national pour revaloriser la profession dans toutes les compétences, pour toutes nos compétences, pour tous les actes qu'on fait et qui ne sont pas reconnus. Et pour changer de titre, parce qu'on est au niveau du titre 5, ce qui est un niveau de BEP, BEP sanitaire et social, et pour passer au titre 4, qui est un niveau bac. Mais là, les négociations sont gelées. Et donc aussi, pour revaloriser notre salaire, alors là, ça va être dur. Et puis, c'était aussi pour faire la formation en 2 ans. Parce que ça avait été question il y a quelques années pour avoir plus d'une formation avec un module sur la psychologie. Bon, ça s'est pas fait, ça serait même plutôt revu à la baisse. C'est très dur de toujours donner, bien que les résidents, eux, me donnent plus que mes employeurs, quoi. Parce que souvent, des sourires, des remerciements, certains sont reconnaissants et ça me touche, quoi.
Et les familles, elles sont...
Mais il y a des familles qui sont très compréhensives, très bien, très, très gentilles,
qui participent, qui des fois il y a des animations qui participent, qui sont très présents, qui sont très proches de leurs parents. Il y en a d'autres qui ont rompu les liens. Il y en a d'autres qui sont très éloignés géographiquement. Puis il y a des personnes qui comprennent pas du tout, qui fuient quoi, qui ont des attitudes de fuite par rapport au handicap de leurs parents. Ça leur fait peur. Les gens qui ont des parents qui ont la maladie d'Alzheimer, ils peuvent pas les prendre en charge parce qu'ils ont pas le temps. Et puis ils sont désarmés devant la maladie quoi. Puis bon, le vieillissement, ça leur fait peur. Enfin, ça fait peur dans la société aussi. C'est mal vécu, c'est mal vu. Donc on a tendance à les reléguer un peu dans des institutions quoi.
J'ai entendu chanter à ma grand-mère, ça. Oui. Soin, soin, qu'elle vienne, vienne, soin, soin, qu'elle vienne donc. Quand la soin, soin viendra, l'homme ami s'endormira. Soin, soin, qu'elle vienne, vienne, soin, soin, qu'elle vienne donc. Voilà comment on endormait les bébés autrefois, il y a 80 ans.
On vient de terminer ce voyage à Tournon avec Hélène par la chanson « Soin, soin » qui vient d'un livret de chant franco-provençal qui a été chanté par Marie Arquillière, originaire de Fourneau dans la Loire. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour ces vieux et ces vieilles qui avant parlaient un patois et voilà, dont s'occupe Hélène en ce moment. On remercie très très fort Hélène d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'avoir passé du temps pour nous expliquer son taf d'aide-soignante. Et pour terminer, un peu en guise de conclusion, j'ai cherché sur internet qu'est-ce que c'était les cantoufles, parce que tout le monde n'est pas... Quand on n'est pas touché par la vieillesse, on ne sait pas forcément ce que c'est un cantou. Et je suis tombée sur le site maisondretraitemedicalisée.org où on voit un bel, beau médecin comme ça en première page avec la définition de cantou. Du coup, c'est centre d'animation naturelle tiré d'occupation utile qui ont vu le jour pour la première fois en France en 77. Le mot cantou d'origine occitane signifie « coin de feu ». Est révélateur de l'atmosphère chaleureuse qui y règne. C'est une maison de retraite médicalisée, avant tout spécialisée dans l'accueil de patients atteints de maladies d'Alzheimer. C'est l'endroit idéal pour des personnes âgées dépendantes auxquelles on a fait la promesse qu'elles ne sombreraient pas dans l'oubli. Alors voilà, comme ça on peut se rendre compte du grand écart entre ces publicistes qui gèrent des maisons de retraite et ce que les soignantes et les travailleuses peuvent en dire. Voilà, encore une fois, une parole qui semblerait plus être portée par un homme. C'est la petite conclusion de Lilith, Martine et les autres. Le voyage en train est terminé, on pose nos bagages, on va laisser la parole à Dancehall Social Club. Et pendant l'émission, vous avez entendu les célébrissimes jingles de la SNCF, la chanteuse belge Fanchon Demers qui a interprété La vie s'écoule de Raoul Vanagheim, la chanson des résignés et S'affranchir de Zoé Daxa. C'était une chanteuse choisie par Hélène. On a pu aussi entendre le solo de Sophie Cavez et un autre solo de Sarah Neufeld. Et puis aussi la petite dédicace aux sages-femmes en lutte de la maternité des Lilas qui réinterprétait une chanson de Stromae avec une réinterprétation militante.